VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 8 février 2017, en direct de Washington. Idrissa Sidoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, 4 morts et 1 blessé dans une attaque au sud Kivu.
Un groupe d'experts de l'ONU dénonce la répression croissante des ONG et défenseurs des droits de l'homme au Burundi.
En République centrafricaine, calme précaire au PK5 à Bangui, après les violences qui ont repris hier dans ce quartier musulman de la capitale.
Au Soudan du Sud, plus de 52 000 personnes ont fui le pays durant le seul mois de janvier à cause des combats qui s'y poursuivent.
Ici aux États-Unis, la Cour fédérale de San Francisco promet dès que possible sa décision sur le décret migratoire du président Donald Trump.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, 4 personnes ont été tuées et une autre blessée au sud Kivu dans une attaque contre le camp des agents de Twagiza Mining, filiale de la société aurifère canadienne Banro Mining. De Bukavu, capitale du sud Kivu, notre correspondant Ernest Mouhero fait le point.
Les faits se passent la nuit du lundi au mardi 7 février vers 0h45, selon Willy Mouchagaloussa, responsable du département des relations publiques à Banro Congo Mining. Ces derniers précisent que le blessé est un agent de sécurité d'une agence de gardiennage à ces sites, et parmi les 4 morts, 3 policiers des mines commis à la garde et un des assaillants. Notre source précise qu'un des bandits armés parmi ceux qui ont tenté de forcer l'entrée du camp a été appréhendé et remis aux autorités. Information confirmée par le ministre provincial des Transports et porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, Agnès Sadiki, qui déplore cet acte irresponsable qui vient de coûter la vie aux braves policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Au nom du gouvernement provincial, Madame Sadiki appelle la population de Luwinja au calme et à la dénonciation. Elle rassure l'opinion que d'une part, le malfrat appréhendé est déjà transféré à Bukavu pour être entendu par les instances habilitées aussitôt sa santé stabilisée, et d'autre part, les enquêtes sont déjà ouvertes pour faire la lumière sur ces dossiers. Retenons que ces camps des agent des Twangiza Mining est situé à près d'une centaine de kilomètres de Bukavu en territoire de Mwenga, dans la partie ouest de la province du Sud Kivu. Ernest Mouhero, Bukavu, VOA Afrique.
Un groupe d'experts des Nations Unies dénonce la répression croissante des ONG et défenseurs des droits de l'homme au Burundi. Dans un rapport, ces experts estiment certaines mesures prises par le gouvernement comme étant les dernières d'une série d'attaques contre les droits à la liberté d'expression et d'association dans le pays. Les détails avec Jacques Aristide.
La situation n'est pas nouvelle, mais pour ces experts onusiens, elle s'est considérablement détériorée depuis plus d'un an et demi. Selon eux, les défenseurs des droits humains qui n'ont pas encore quitté le pays craignent pour leur vie et sont victimes d'intimidations incessantes, de menaces de détention arbitraire, de tortures et de disparitions forcées. Les rapporteurs de l'ONU font également état de la récente interdiction de 5 ONG, alors que d'autres ont été suspendus. De même, ils mettent en garde contre ce qu'ils appellent l'effet obstructif, restrictif et stigmatisant de la législation récente sur les ONG. La loi oblige les ONG locales à obtenir le feu vert du ministre de l'Intérieur pour toute activité et à passer par la Banque centrale pour les fonds d'origine étrangère qu'elles reçoivent. Quant aux ONG internationales, elles sont contraintes de respecter les priorités fixées par le gouvernement. Ces experts appellent Bujumbura à réviser cette législation et mettre fin au climat d'impunité qui, d'après eux, prévaut actuellement au Burundi.
En République centrafricaine, calme précaire au PK5 à Bangui, des violences ont de nouveau repris hier en fin d'après-midi dans ce grand quartier musulman de la capitale centrafricaine. Tout serait parti du décès de Big Man, un chef réputé d'une bande armée de ce secteur. Le point avec Freeman Sipila.
De son vrai nom Youssouf Sy, Big Man était jusque-là le nouvel homme fort du PK5. Il avait succédé à Almiri Matar, connu sous le sobriquet de 50-50, lui-même tué dans un combat entre groupes armés de ce quartier en novembre dernier. Des sources jointes par VOA Afrique indiquent que l'homme a été tué mardi en fin d'après-midi dans un accrochage avec des éléments des forces de sécurité centrafricaines. Information démentie par une source proche de la police expliquant que Big Man a été touché par balle le samedi dernier dans une fusillade avec une autre bande armée. Il serait donc décédé suite à ses blessures, ce qui n'arrangerait pas ces éléments qui ont pris à partie hier une patrouille de la police. Les violences qui s'en sont suivies auraient fait de nombreuses victimes. Il est difficile au stade actuel de donner un bilan exact en dehors de la mort confirmée d'un pasteur. PK5 est calme pour le moment, mais la tension y est toujours palpable. La MINUSCA, la force de l'ONU, a mis en place un dispositif sécuritaire pour prévenir des représailles. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, le Premier ministre Oumarou Sissoko Embalo a accusé hier le président guinéen Alpha Condé, médiateur de la crise politique dans son pays, de jouer un rôle négatif et il a indiqué qu'il pourrait demander son remplacement, et ce dans un entretien avec l'AFP. « Je sais que le président Alpha Condé est contre moi personnellement, il ne s'en cache pas d'ailleurs », a déclaré M. Embalo. La veille, le chef du gouvernement avait remis au président de l'Assemblée nationale son programme de politique générale dont la date d'examen n'était pas connue, le PIGC au pouvoir continuant à bloquer les travaux du Parlement. La Guinée-Bissau, il faut le dire, traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Simoes Pereira, le chef du PIGC, auquel tous deux appartiennent.
Plus de 52 000 personnes ont fui le Soudan du Sud durant le seul mois de janvier, la plupart vers l'Ouganda, pour échapper aux incessants combats qui minent le plus jeune pays du monde et font planer des menaces de génocide, selon l'ONU. La plupart des déplacés vivent dans des villes au sud de la capitale, Djouba, dans l'état méridional d'Équatoria centrale, a précisé le conseiller spécial pour la prévention des génocides des Nations Unies, Adama Dieng. Monsieur Dieng est particulièrement inquiet de la situation à Kajokeji, où les civils qui ont fui la région disent craindre des violences de masse. Après divers retards, une mission de maintien de la paix de l'ONU est arrivée dans la ville dimanche pour surveiller la situation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, une cour d'appel fédérale de San Francisco promet de dire, dès que possible, si un juge fédéral était justifié dans sa décision de suspendre le décret du président Donald Trump, qui, le mois dernier, a interdit temporairement l'entrée aux États-Unis de citoyens de 7 pays à majorité musulmane. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Un avocat du département de la justice, Auguste Flengy, et Noah Purcell, celui des États de Washington et du Minnesota, qui ont porté plainte contre cette interdiction, ont présenté hier leurs arguments par téléphone aux trois juges de la cour d'appel. Auguste Flengy a déclaré que le décret du président Trump était conforme au pouvoir que lui donnent le Congrès et la Constitution et qui lui permet d'établir les critères adéquats pour filtrer les voyageurs demandant des visas pour les États-Unis. M. Flengy a reconnu que les choses se sont déroulées trop rapidement pour donner au gouvernement assez de temps pour fournir toutes les preuves devant étayer le décret de M. Trump. Pour lui, l'ordre de suspension de ce décret par le juge de l'État de Washington était trop vaste et outrepassait le jugement du président. Pour sa part, l'avocat représentant les États de Washington et du Minnesota, Noah Purcell, a souligné que l'administration Trump veut réinstaurer son décret sans un examen judiciaire complet, ce qui replongerait le pays dans le chaos. À une question pointue sur l'allégation de discrimination contre les musulmans, alors que leur grande majorité n'était point affectée, Purcell a répondu qu'il n'était pas nécessaire pour prouver la discrimination religieuse que le décret ne nuise qu'aux musulmans ou à tous les musulmans. Quelle que soit la décision de la Cour d'appel de San Francisco cette semaine, les observateurs s'attendent à ce que l'affaire finisse devant la Cour suprême des États-Unis.
La nouvelle loi israélienne en faveur des colons scandalise les Palestiniens et les défenseurs d'une solution à deux États qui la dénoncent comme un crime de guerre, un vol légalisé ou un pas de plus vers l'annexion de la Cisjordanie. John Lyndon.
Adoptée dans la nuit de lundi à mardi par le Parlement, cette loi autorise l'État israélien à s'approprier contre compensation des terrains privés des Palestiniens sur lesquels des Israéliens ont construit sans autorisation en Cisjordanie occupée. Cette loi a suscité une série de condamnations de la communauté internationale ouvertement inquiète d'un nouveau coup porté à la paix entre Israéliens et Palestiniens. Au nom de l'ONU, le coordinateur spécial pour le processus de paix, Nikolai Mladenov, a estimé qu'Israël franchissait une ligne rouge très épaisse sur la voie d'une annexion de la Cisjordanie occupée. Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé une agression contre son peuple. L'administration Trump, elle, dit ne vouloir commenter cette loi avant toute décision de justice. Je veux croire qu'Israël et son gouvernement peuvent revenir sur ce texte et peuvent reculer, a pour sa part déclaré François Hollande. Une grande partie de la communauté internationale voit dans les colonies juives un obstacle à la paix.
Le gouvernement syrien a rejeté mardi les accusations d'Amnesty International sur son recours aux exécutions de masse et à la torture systématique dans une prison près de Damas. Le ministère de la Justice a qualifié le rapport de l'ONG de « dénué de tout fondement », a rapporté tard mardi soir l'agence de presse officielle SANA. Dans ce rapport publié mardi, Amnesty accuse le régime syrien d'avoir pendu secrètement jusqu'à 13 000 opposants présumés, en grande majorité des civils, entre 2011 et 2015. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Morgane Guiriec.
L'UE et le Maroc ont affiché hier leur volonté de coopérer et de maintenir des relations commerciales stables. Déclaration faite au lendemain de la mise en garde adressée à Bruxelles par Rabat sur l'accord agricole contesté par le Front Polisario. Il faut dire que la justice européenne avait estimé fin 2016 que cet accord de libre-échange de produits agricoles et de la pêche, signé en 2012, ne concernait pas le Sahara occidental, ex-colonie espagnole contrôlée par Rabat et dont le Polisario réclame l'indépendance. Plus de pétrole qu'on ne le pensait au Sénégal. C'est ce qu'annonce la compagnie phare LTD, qui a donc augmenté de plus de 50% son estimation des futurs barils de pétrole. L'entreprise évalue à 1,5 milliard de barils la quantité de pétrole se trouvant au Sénégal, indique le site upi.com. En Côte d'Ivoire, deux localités de Guiglo et Blolequin bénéficient d'un programme d'accès à l'eau potable. D'après Abidjan.net, une équipe du ministère des Infrastructures économiques a lancé les travaux d'adduction en eau potable par la construction de canaux devant servir à la pose des tuyaux.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Du changement à la tête de l'équipe de football ghanéenne.
Le sélectionneur israélien du Ghana, Avraham Grant, a démissionné hier de ses fonctions après la défaite des Black Stars à la CAN au Gabon. Cela faisait un peu plus de deux ans qu'il avait pris la tête de la sélection ghanéenne de football. Le Ghana, on le rappelle, battu par le Burkina Faso lors du match pour la troisième place, 1-0.
5 Nigérians suspendus par la FIFA.
En effet, la FIFA a suspendu 5 personnes impliquées dans la bataille pour le contrôle de la Fédération nigériane de football. Chris Jiwa, ancien propriétaire du Jiwa FC dans la ville centrale de Jos, martèle depuis août 2014 qu'il est le président élu et légitime de la Fédération nigériane de football. Mais les résultats de cette élection contestée ont conduit la FIFA à menacer le Nigeria d'une exclusion de toute compétition internationale s'il n'organisait pas un nouveau scrutin, ce qui a été fait. Et lors de cette nouvelle élection, c'est Tamajou Pinnick qui a été désigné à la tête de la fédération. Mejiwa s'est ensuite engagé dans une bataille juridique pour contester cette légitimité. Et en 2016, la Fédération nigérienne de football a donc exclu Jiwa et ses soutiens pour avoir enfreint la règle de la FIFA en attaquant la fédération devant une cour civile. La Confédération africaine de football a confirmé la suspension prononcée par la FIFA. Cette suspension s'applique dans le monde entier.
Un joueur ivoirien signe en Chine.
Le joueur de Newcastle, Cheikh Tiote, s'est engagé avec l'équipe pékinoise de Beijing Enterprises en division 2 chinoise. C'est ce qu'annonce le club sur son site internet. Le montant du transfert n'a pas été précisé. Cheikh Tiote, 30 ans, est notamment passé par Anderlecht. Il jouait à Newcastle depuis 2010. Il avait remporté en 2015 la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire.
Nouveau record du monde pour Genzebe Dibaba sur 2000 mètres en salle.
Oui, l'Éthiopienne Genzebe Dibaba a amélioré le record du monde de la distance, le temps 5 minutes 23 secondes et 75 centièmes, et ce à la veille de son 26e anniversaire. La vice-championne olympique du 1500 mètres à Rio, distance dont elle détient également le record du monde en plein air, possédait déjà les records du monde en salle des 1500 mètres, du mile, du 3000 mètres, du 2000 mètres et du 5000 mètres. Ça fait beaucoup de records, Idrissa. Allez, on vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Brooklyn Nets, Charlotte 107-111, Orlando Houston 104-128 et Portland Dallas 114-113.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nouvelle mutinerie de soldats en Côte d'Ivoire. Hier, des militaires des forces spéciales sont descendus dans la rue à Adiaké en tirant en l'air. Les revendications de ces soldats n'étaient pas connues dans l'immédiat. On se rappelle cependant qu'en janvier, la Côte d'Ivoire a été le théâtre d'une série de mouvements de mutinerie au sein des forces de sécurité pour réclamer le paiement de primes. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Abidjan le président de Citoyens et Participation, Christophe Kwame.
Il faut gérer cette crise sur du long terme, surtout que c'est une crise qui sort de l'armée, sachant que cette armée était en crise en 2011. Donc pour nous, il va falloir faire quelque chose. Nous ne savons pas quoi, mais il va falloir faire quelque chose.
Mais ils avaient trouvé un accord.
L'accord a posé problème. Dès que le président de la République a répondu lors du Conseil d'État ou le Conseil d'urgence qu'il était en accord, tout de suite, un membre de l'opposition et certains membres de la société civile, y compris moi-même, vont déclarer que, étant donné que c'est une crise relative aux militaires de l'État de Côte d'Ivoire, il fallait que la gestion soit transparente, c'est-à-dire ne serait-ce que pour le paiement du montant et que l'Assemblée nationale discute parce que c'est un montant hors budget et nous ne savons pas où ce montant allait sortir pour être donné aux mutins. Malheureusement, le gouvernement a répondu pour dire que ce montant relevait de promesses dans les accords de Ouagadougou 1 à 4. Nous avons pris ces accords de Ouagadougou 1 à 4 en comptant l'accord de Pretoria. Nulle part il n'est écrit ces différents montants à donner. Il y a certes des montants, il s'agit de 500 000 francs CFA. Et ces 500 000 francs CFA même devaient être donnés aux milices pro-Gbagbo et au FAFN qui était au nombre de 3 400. Certains chiffres comme 5 000 étaient présents dans les accords, mais jamais il a été question de 12 millions aux mutins.
Est-ce que vous connaissez le contenu de cet accord?
L'accord, nous l'avons attendu. Vous donnez notre point de vue en tant que citoyen contribuable. À la date d'aujourd'hui, l'accord n'est pas arrivé. Il y a une gestion tout à fait opaque d'une situation nationale. Alors la question qu'on se pose en tant qu'observateur, est-ce que réellement les forces armées de Côte d'Ivoire sont une armée qu'on voudrait républicaine, auquel cas il faut faire appel aux institutions républicaines pour gérer la crise? Ou alors si c'est des factions d'armées qui sont d'un camp, alors on accepte l'opacité. Mais il n'est pas tard. La mutinerie d'Adiaké nous rappelle à nos bons soins, à l'exécutif ivoirien, au président Alassane Ouattara, qu'il devrait gérer cette situation de manière plus transparente, en incluant le Parlement, en incluant l'opposition dans son entièreté, et en recherchant l'unité nationale devant un problème aussi grave qui touche notre nation.
C'était Christophe Kwame de Citoyens et Participation, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
En République démocratique du Congo, incertitude sur le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Aucune date officielle n'est avancée pour le retour dans la capitale congolaise du corps de l'opposant historique décédé à Bruxelles le 1er février dernier. Des divergences subsistent entre le pouvoir, l'opposition et la famille du défunt. Eddie Isango a joint à Kinshasa un des sages du rassemblement, Lisanga Bonganga.
Aujourd'hui, le peuple a dit, par respect, bien sûr, à sa mémoire, il est important à ce qu'on puisse d'abord commencer à matérialiser ce qu'il y a eu comme dans l'accord particulier, c'est-à-dire arriver jusqu'au bout. D'ici 48 heures, 72 heures, on peut terminer. Et qu'on sache qui est le premier ministre. C'est ça au moins la volonté de la base. Et cette volonté est respectée par la famille biologique, par son parti politique et sa grande plateforme de rassemblement.
Qu'est-ce que vous avez décidé au niveau de la famille politique et de la famille biologique pour le rapatriement de son corps?
Il est nécessaire qu'avec l'arrivée des évêques, on puisse se rencontrer pour parler des situations d'abord. Est-ce qu'on doit attendre à ce qu'on puisse d'accord, enterrer le corps et terminer ce qui restait au niveau de l'arrangement particulier, ou alors, comme les effets qui sont là, rapidement 48 heures, 72 heures, on peut terminer cet accord et respecter la volonté du peuple, c'est-à-dire la volonté du président Étienne Tshisekedi concernant l'accord. Nous avons tenu la réunion avec la famille biologique, nous, les rassemblements. Quand nous avons terminé, la famille est partie pour rencontrer le gouvernement, c'est-à-dire l'entourage du président Kabila. La famille a trouvé que toutes les préoccupations n'avaient pas trouvé gain de cause et la famille a demandé de rencontrer personnellement le président de la République. C'est la réponse que la famille nous a donnée.
Donc les positions ne sont pas tranchées, vous ne conditionnez pas donc le rapatriement de la dépouille de M. Étienne Tshisekedi à la nomination d'un premier ministre.
Ce n'est même pas conditionné. C'était comme si on est en train de marchander. Le président Tshisekedi, depuis qu'il y a eu les élections chaotiques de 2011, il a mené un grand combat pour qu'il y ait un dialogue dans ce pays. Mais maintenant, on arrive à une étape où on sait que s'il y a la bonne volonté de la part de nos amis et frères et sœurs de la majorité, on peut trouver ce consensus et arriver. Et à ce moment-là, quand on l'enterre, on dit voilà, il s'est battu pour ce dialogue et maintenant, on vient de finaliser le dialogue et on l'enterre avec les honneurs.
Lisanga Bonganga, chef de la coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi. Toujours en RDC, l'opération de révision du fichier électoral continue dans les provinces de l'Est du pays, au Nord Kivu, malgré certaines critiques de la société civile et de partis politiques contre quelques-uns de ses propres agents et des policiers. La Commission électorale nationale indépendante se félicite du grand pourcentage d'enrôlés en moins de 2 mois. La CENI n'en reconnaît pas moins les défis logistiques et sécuritaires auxquels elle doit faire face. De Goma, notre correspondant Charlie Kasereka.
Malgré ces avancées pour cette opération, les bureaux provinciaux de la CENI au Nord Kivu présentent certaines craintes, entre autres les vols des kits électoraux par des membres des groupes armés et surtout l'acheminement de ces matériels dans les milieux enclavés. Raphaël Akilimali est le secrétaire exécutif de la CENI au Nord Kivu.
Sur le 1200 centres d'enrôlement, il nous reste 8 à déployer. Donc, une des difficultés que nous sommes en train de connaître, c'est en rapport avec les déploiements. Dans les milieux où il n'y a pas de route et on ne peut y accéder que par hélicoptère, c'est vraiment dommage que un kit a été volé dans les Massissi. Jusque-là, la fouille contrôlée.
La coordination provinciale des associations de la société civile dénonce ce qu'elle qualifie d'incivisme, les comportements de certains agents de la CENI et certains éléments de la police commis au centre d'enregistrement des électeurs. Thomas Daka Mouiti est le numéro 1 de cette structure ici au Nord Kivu.
Certains groupes armés que ça donne à arracher les kits dans les centres. Il y a aussi ce virus de monnaie. Ce n'est pas la population qui a engagé ces agents. Donc, s'ils ne sont pas payés, ils ne peuvent pas se rabattre sur la population.
À plus de 100 km à l'ouest de Goma, la population appelle la MONUSCO et le gouvernement congolais à s'investir encore plus pour acheminer les kits électoraux et assurer la sécurité des agents dans les coins reculés de la province. Tom Amouri est un notable dans les territoires de Walikale.
Aujourd'hui, une bonne partie de Walikale n'est pas encore servie en kit. Nous appelons la CENI de continuer ses pourparlers avec tous ses partenaires qui devaient intervenir de manière à ce que tous les territoires soient servis en kit électoraux.
La mission onusienne en RDC dit avoir déjà acheminé plus de 1700 tonnes de matériel de la CENI avec ses avions dans les milieux reculés et continue à les faire, nous a fait savoir Félix Prosper Bass, qui en est son porte-parole, avant d'inviter la population congolaise a exigé encore plus au gouvernement congolais. Les gouverneurs de la province indiquent que cette opération d'enregistrement des électeurs va atteindre même la population se trouvant dans les camps des déplacés. Il en a profité aussi pour lancer un dernier avertissement aux groupes armés. Une forte délégation des 13 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies séjourne à Goma depuis ce mardi pour évaluer ensemble avec leurs partenaires la situation sécuritaire et surtout se renseigner plus sur le bon déroulement de cette opération de la révision du fichier électoral. Charlie Kasereka, depuis Goma pour VOA Afrique.
Au Tchad, l'actualité reste dominée par la récente sortie du président Idriss Déby Itno, qui le 2 février dernier a clairement indiqué ne pas pouvoir organiser les élections législatives avant 2 ans. Notre correspondant André Kotmadjigar a recueilli les réactions de quelques leaders politiques du pays.
Face à la presse nationale et internationale, le président Idriss Déby Itno a confirmé ce qu'il a dit à huis clos aux députés de la majorité présidentielle. Pas d'élection législative avant 2019, car selon le président Déby, les législatives coûtent beaucoup trop cher. Et c'est pour ne pas mentir au peuple tchadien que je disais que le pays ne pourra pas se permettre ce luxe en cette période de vache maigre, a-t-il déclaré. Réaction de Ngarledi Yurungar, l'opposant historique et député à l'Assemblée nationale.
Ce qui m'écœure, c'est que Déby proroge le mandat des députés, mais n'a jamais daigné proroger son propre mandat. Pourquoi ? C'est la même constitution qui a permis la prorogation du mandat des députés. C'est la même constitution qui peut aussi être utilisée pour proroger le mandat de Déby pour éviter des dépenses inutiles. Donc, qu'il s'autoproclame à travers les prorogations, président à vie, parlement à vie, député à vie. Idriss Déby n'a jamais gagné les élections. Donc, il ne peut pas organiser une élection législative futile sans qu'il soit sûr de gagner.
Pour le coordonnateur du FONAC, Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, Mahamat Ahmed Alabo, en prolongeant le mandat des députés à l'Assemblée nationale, le chef de l'État a porté atteinte à la forme républicaine. Mahamat Ahmed Alabo assimile cet acte à la haute trahison et demande à la haute cour de justice de juger Idriss Déby Itno, tout en sachant que la saisine ne peut être faite que par l'Assemblée nationale à la majorité de 2/3 de ses membres au scrutin secret selon la constitution de la République du Tchad.
Le président de la République, non seulement doit protéger la Constitution, mais il est le garant aussi de cette Constitution-là. Et comment il décide de la violer allègrement. Le droit, c'est une question d'interprétation. Et on peut interpréter ça comme un acte de haute trahison. Et donc, la haute cour de justice doit s'auto-saisir de cette question automatiquement et il doit traduire en justice et juger le président.
Ce qui est paradoxal, tous les députés de l'opposition de la 3e législature s'accordent à dire non à la prorogation de leur mandat. Elle est anticonstitutionnelle, disent-ils. Mais il refuse de démissionner collectivement alors que ce geste s'illustrera comme une leçon de démocratie. André Kodmadingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Jovenel Moïse est devenu ce mardi 7 février le 58e président de la République d'Haïti. Il a prêté serment dans un parlement dominé par son parti et ses alliés en présence de deux chefs d'État de la région et de délégations venues des États-Unis, du Canada, de la France et d'autres pays. Gaby Dorcy l'a évoqué avec l'analyste politique Georges Michel les défis qui attendent le nouveau président haïtien.
Le président Jovenel Moïse a pris l'engagement de faire redémarrer la production nationale, surtout dans le domaine agricole. Il doit augmenter la richesse nationale. Il a aussi parlé de compétences et d'honnêteté. Et il a trois maîtres mots comme candidat. C'est continuité avec ce qui était bon, correction avec ce qui était mauvais et innovation avec ses idées propres. Il a les mains pleines pour 5 ans, c'est ce que je vois, moi.
Et il a également un parlement pas entièrement acquis à sa cause, mais où il aura quand même une certaine majorité.
Tout à fait, il a une bonne majorité au Parlement, et ça, c'était pas vu depuis très longtemps en Haïti, où députés et sénateurs ne sont pas hostiles au pouvoir en place.
Quelle est la situation actuelle du pays, docteur Michel? Comment Jocelyn Privert, le président intérimaire, a-t-il laissé le pays?
Le président Privert a fait ce qu'il a pu. Il a trouvé une situation désastreuse après la mauvaise gestion des 2 dernières années du président Martelly. Et il a essayé de redresser la barre. Et on doit donner le mérite au président Privert d'avoir réalisé les élections. Ce n'est pas rien, de bonnes élections. Ce n'est pas sa famille politique qui est montée. Il faut dire les choses clairement. Privert a rempli son rôle. Et il y a un indicateur très simple. C'est la décote de la gourde qui était en train de glisser quand M. Martelly a quitté le pouvoir. Elle perdait 25 centimes, 50 centimes par jour. Et le gouvernement du président privé a permis de ralentir cette décote.
On ne peut pas parler d'Haïti sans parler de sécurité. Le pays n'est pas sous tutelle officiellement, mais il y a une force internationale présente sur le terrain. Et il y a encore un problème d'insécurité de temps en temps. Que peut faire le nouveau gouvernement, selon vous, à ce niveau?
D'après les renseignements que je crois avoir, le président Jovenel Moïse a promis de restaurer l'armée nationale, qui est la 2e composante de la force publique, pour remplir le rôle que la composante militaire de la MINUSTAH remplit, et remplit encore imparfaitement, incomplètement. Et j'ai lu dans la presse que le nouvel ambassadeur américain aux Nations Unies a promis de réviser les missions de maintien de la paix. La MINUSTAH est dans le collimateur de l'administration Trump. Cette force coûte 345 millions de dollars l'an. financé à 68% par les États-Unis. Et c'est sûr qu'avant trop longtemps, nous n'aurons plus de Minusta. Et il va falloir s'occuper sérieusement de la question de l'armée nationale. Et l'armée sera là pour suppléer à la police quand les menaces auront atteint un niveau qui méritera une réponse militaire avec un outil militaire.
Le docteur Georges Michel, analyste politique, joint à Port-au-Prince. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.